reportage de Bastien Machin.
Comme on n'était pas tout à fait frais, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Caméra Subjective avec Alny qui tapote sur ses boutons. Et Caméra Subjective, c'est une émission qui vous parle de cinéma, bien sûr, sous toutes ses coutures, une semaine sur deux à 19h sur Radio G. Alors, vendredi dernier, peut-être que vous vous en souvenez, mais c'était la cérémonie des Césars. Alors, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais pour résumer, le grand gagnant cette année, c'est un film de genre, et c'est assez rare pour être souligné. Un film noir intrigant, celui d'une enquête non résolue sur le meurtre d'une jeune femme. Je parle bien sûr du film de Dominique Moll, La nuit du 12, récompensé par pas moins de 6 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur et pas réalisatrice, car vous l'avez probablement entendu dans les médias, il y avait comme un hic cette année dans cette catégorie. Seuls 5 hommes étaient nommés. Aucune femme, alors que le Cru 2022 proposait quelques candidates plutôt sérieuses, à commencer par Rebecca Zlotowski, la réalisatrice du très beau film « Les enfants des autres », ce que n'a pas manqué de souligner la cinéaste Alice Diop qui, elle, a obtenu le César du meilleur premier film pour Saint-Omer. Alors quand on sait que dorénavant, c'est une majorité de premiers longs-métrages français qui sont réalisés par des femmes, on se dit que la relève arrive. Attention messieurs, ça va décoiffer. Alors pour revenir dans ce studio à Radio G, vous allez vite vous rendre compte que nous n'avons pas ce type de problème à Caméra Subjective, où les voix de femmes portent avec force et avec enthousiasme. Bonjour l'équipe, bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Hello.
Bonsoir Anne-Lie.
Bonsoir Margot.
Merci. Ce soir, c'est une émission qui regorge de bons films et de sujets captivants. Lisa va nous présenter le festival Conversation, organisé en partenariat avec le CNDC. Sandra nous parlera du nouveau film de Sam Mendes, Empire of Light, juste pour le plaisir de le dire en anglais.
Tout à fait.
Mais avant ça, Véronique et son invitée Clotilde Amelin évoqueront le tourisme lié au cinéma. Et pour commencer, et peut-être pour réviser nos classiques, je ne sais pas, voici les premières questions du quiz de Sandra.
Alors au début du mois de février, je vous proposais un quiz sur les films d'amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Comme selon la chanson, les histoires d'amour finissent mal en général, je me suis cette fois intéressée aux films de rupture amoureuse. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz du jour ?
Allez, c'est parti.
Ah, j'ai le buzzer sous la main là.
On commence avec un film italien de 1961 de Pietro Germi avec le grand Marcello Mastroianni. Mais si, vous allez voir. Divorce à l'italienne, ça vous parle ?
Oui.
Oui, ah, non.
Alors dans ce film, on a Fefe, noble sicilien, qui est amoureux de sa jeune cousine Angela. Le souci, c'est qu'il est déjà marié et que le divorce est illégal dans l'Italie de la fin des années 40. Alors, comment Fefe pense-t-il mettre fin à son mariage, d'après vous ?
Waouh ! L'assassinat.
Ah bah voilà !
Ça c'est du film noir.
Je ne sais pas.
Annie est inspirée. Bah, en fait, c'est l'idée. Il va compter sur la notion de crime d'honneur en Italie. Et donc du coup, il va essayer de pousser sa femme dans les bras d'un amant pour avoir une bonne raison de la trucider et pas passer trop de temps en prison parce que bah, forcément, les juges vont être compréhensifs. Compréhensifs.
Eh ben, nous voilà bien.
Bon, on passe à la deuxième question. Quels acteurs, couples de cinéma mythiques, sont réunis pour la deuxième fois à l'écran en 2008 dans le film de Sam Mendes, Les Noces Rebelles ?
Mais attends, pour moi, Les Noces Rebelles, je confonds avec celui de Tim Burton, donc déjà, c'est pas gagné.
Ah. Alors, pas des indices.
Ce film, il a été réalisé 11 ans après Titanic. Titanic.
D'accord.
Ah, est-ce que ça a à voir avec
les acteurs
et
peut-être bien
même,
mais dis donc, ça serait peut-être bien le même couple mythique.
Donc en fait, ils sont pas morts dans le bateau.
Elle est pas mal. Bah, y en a qu'un des deux qui meurt dans
ouais,
le bateau.
C'est vrai.
Enfin, sans vouloir faire de spoiler, pardon, chers auditeurs.
Ouais,
donc, ce sont effectivement Kate Winslet et Leonardo DiCaprio qui avaient été révélés par Titanic en 97 et qui se retrouvent 11 ans après dans ce film de Sam Mendes autour d'un couple qui se délite au milieu des années 50. C'est un très beau film visuellement et très intense émotionnellement. On s'arrête là pour l'instant, on reprendra à la fin de l'émission.
On a d'autres questions à la fin de l'émission. Alors tu parlais de Titanic et on peut imaginer que le décor a coulé comme le bateau. Mais là, on va parler de décors qui n'ont pas coulé a priori avec l'entretien de Véronique avec Clotilde Amelin. Je te laisse Véronique nous en dire plus.
Merci Margot. Eh bien, je suis très heureuse de recevoir Clotilde Amelin aujourd'hui, parce que Clotilde, en novembre dernier, tu as brillamment soutenu ton mémoire de master avec tes deux complices que nous saluons, Charlotte Blin et Tiphaine Lefebvre. Vous étiez alors étudiante à l'ESTUA à l'Université d'Angers. Pourrais-tu nous résumer en quelques mots l'objet et les enjeux de ce mémoire de recherche ?
Alors oui, bien sûr. Alors je peux faire déjà une version compliquée un peu du sujet que j'étudie.
Ouais, merci, comme ça on va être impressionnés.
Voilà, et après je vais faire une version beaucoup plus simple pour déconstruire tout ça et vous montrer qu'en fait j'étudie des choses très très simples. Alors la version compliquée, en fait moi j'étudie le processus de transformation transmédiatique des œuvres issues de l'imaginaire de la fantasy. Et donc en fait, pour être beaucoup plus clair, c'est tout simplement le processus qui fait que des livres sont transformés en films et sont transformés par la suite en patrimoine et en tourisme. Et du coup moi je travaille uniquement sur l'imaginaire de la fantasy et donc sur trois exemples bien spécifiques qui sont Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Game of Thrones.
Et comment avez-vous eu l'idée de ce sujet ?
Alors, l'origine de ce sujet, durant notre première année de master, on devait faire un stage et donc j'ai cherché un peu à partir à l'étranger et notamment à partir en Écosse parce que c'est notamment là-bas que se trouve Poudlard. Et donc je me suis dit que ce serait chouette si je partais là-bas parce que ça me permettrait justement de visiter des lieux de tournage. Et en fait à partir de ce moment-là, j'ai eu un peu le déclic à me dire bah tiens, ça peut être un sujet de recherche plutôt intéressant.
Et donc cette visite au Poudlard écossais a confirmé tes envies ?
Alors pas du tout parce que je n'y suis jamais allée.
D'accord. Bon. Et ben donc c'est à mettre sur la liste de tes envies.
Exactement, oui.
OK, d'accord. Et donc à partir de ces trois œuvres de chevet, donc je rappelle Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et Game of Thrones, pourquoi avez-vous choisi donc toutes les trois ces trois œuvres ? Et un peu derrière ça, en quoi ces trois œuvres ont-elles été favorables pour donner envie de partir du livre et d'en faire des images, puis des spots touristiques.
Alors, on est parti de ces trois œuvres un peu parce que chronologiquement parlant, c'est ce qui a fait vraiment l'émergence et la démocratisation du genre de la fantasy, c'est-à-dire que la fantasy a véritablement explosé d'un point de vue culture populaire avec la sortie du Seigneur des Anneaux, donc écrit par Tolkien. Ensuite, on a commencé à avoir quelques adaptations cinématographiques qui étaient beaucoup plus des blockbusters, donc pas du tout dans la fantasy. Et c'est à partir du début des années 2000 où New Line Cinema a pris le pari en fait d'adapter Le Seigneur des Anneaux en film. Et ça a été un vrai pari parce que pour l'anecdote, les trois films ont été réalisés tous en même temps sur une année. Donc tout a été écrit, tourné et monté en une seule année.
Ah oui.
Et en même temps, dans les années 90, on a les livres Harry Potter qui sortent, qui sont un phénomène littéraire mondial. Et ensuite, la même année, donc en 2001, on a le premier Seigneur des Anneaux qui sort au cinéma et on a aussi Harry Potter qui sort quelques mois par la suite. Et en fait, les succès au niveau du box-office sont phénoménaux. Harry Potter, c'est vraiment un succès fou. Et par contre, Le Seigneur des Anneaux, le succès est au rendez-vous, mais par contre, il est en plus de ça salué par la critique. Donc, il y a vraiment ce truc qui conforte l'idée que, ben, en fait, la fantasy au cinéma, ça fonctionne, ça marche. Et donc, on a un peu cette deuxième révolution en plus du phénomène littéraire qui arrive avec le cinéma. Et Game of Thrones, ça arrive par la suite parce que, pareil, ça a été vraiment une troisième révolution dans le sens où Game of Thrones, c'était plus compliqué à adapter au cinéma parce que le format ne fonctionnait pas. Et l'auteur refusait de vendre ses droits pour l'adapter au cinéma parce que ça ne fonctionnait pas. Et un jour, il a rencontré deux réalisateurs qui étaient fans de l'œuvre. Et ça s'est joué en fait sur une seule question, puisque Georges Martin leur demande, on était, il me semble, au deuxième ou troisième livre, et il pose la question au réalisateur, donc à la fin du rendez-vous, si pour eux, qui est la mère de Jon Snow. Les deux réalisateurs répondent à la question et Georges Martin leur a dit, vous avez raison, alors je vous donne les droits et on va adapter ça en série. Et donc HBO prend le pari de créer une série pour les adultes, parce que c'est vraiment une série très très violente, et en se disant, bon, là, même eux n'y croyaient pas en fait. On prend un risque, on met tout sur le tapis, on sorte que ça fonctionne et on verra bien ce que ça donne. Et donc ils ont travaillé là-dessus, et en fait quand la série est sortie, ça a été vraiment un phénomène mondial qui a pris de l'ampleur de plus en plus, et en fait ça a créé vraiment une révolution dans le genre déjà cinématographique, parce que maintenant on a de plus en plus d'adaptations en série, donc ça prouve en fait qu'on a véritablement une évolution de la consommation. En fait maintenant on va beaucoup moins vers les films, on est plus dans le streaming, la consommation d'épisodes, de binge-watching, etc. Et aussi de dire, bah en fait, des œuvres comme ça qui sont énormes d'un point de vue littéraire, qui sont hyper compliquées, bah en fait, on peut les adapter et c'est possible et voilà.
Ok, super, c'est passionnant. Moi, ce qui m'a intéressé en fait dans ce que tu racontes, c'est que tu expliques comment des œuvres fictives deviennent aussi des lieux touristiques, mais pas à la manière Disney, puisque en effet, depuis que le cinéma existe, il y a eu cette envie de faire un lien avec des lieux de tourisme, mais que aussi ces trois nouvelles œuvres amènent de nouvelles pratiques touristiques.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'elles sont un peu en l'opposé de Disney, puisque alors moi je vais étudier très prochainement, puisque je vais bientôt faire une thèse pour continuer à travailler sur ce sujet-là, notamment l'étude des lieux de tournage en fait, qui aujourd'hui sont encore existants. Par exemple, le village des Hobbits qui est en Nouvelle-Zélande a été reconstruit pendant à la suite du tournage du Hobbit. Il existe aujourd'hui, donc c'est un lieu de tournage qui est libre à la visite, mais qui est un lieu uniquement en extérieur, on ne peut pas visiter l'intérieur. Et en fait, c'est l'opposé de Disney, dans le sens où Disney, c'est vraiment un parc d'attractions qui peut être perpétuellement en expansion, donc qui peut créer des nouvelles zones, des nouveaux parcs avec des attractions nouvelles. Donc c'est quelque chose qui peut toujours évoluer, qui peut toujours grandir et offrir des propositions nouvelles au public. Alors que les lieux de tournage, on va voir ce qui a été fait, on voit les choses, mais on peut pas proposer d'attraction à proprement parler dessus. Donc c'est ça qui peut être intéressant, et justement en fait ces nouveaux lieux touristiques voient le jour, notamment grâce à la fantasy, puisqu'on a aussi les studios Harry Potter à Londres. Et donc l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi ces lieux existent, comment on a fait pour les faire exister, et en fait est-ce que ces modèles fonctionnent, est-ce qu'ils ont de l'avenir, et est-ce que c'est pas des modèles à suivre pour l'avenir, est-ce que la fantasy peut continuer d'évoluer justement dans le champ touristique, est-ce que c'est pas voué à avoir une fin, peut-être dans une cinquantaine d'années, on sait pas, peut-être que ça ne fonctionnera plus ou pas. Et donc voilà, l'intérêt c'est toujours de savoir et essayer d'anticiper, justement de proposer des choses nouvelles et de comprendre en fait ces nouveaux comportements du tourisme et de la population qui évolue chaque année.
Et alors ce qui me paraît aussi particulier, c'est la place que les fans aussi peuvent prendre dans l'appropriation des lieux touristiques, parce que j'imagine que Disney a créé ses propres parcs tout seul sans... Et que là, les fans prennent aussi une place pour ce développement.
Alors oui, les fans, ils ont vraiment une importance énorme, parce que je pense que la fantasy, ça s'est démocratisé au fur et à mesure des années, mais c'est quand même pas un genre qui est universel. Et la place des fans est extrêmement importante, parce que c'est eux qui continuent de faire vivre l'œuvre au-delà, en fait, parce que les œuvres littéraires, elles sont finies, elles ont une fin, et en fait les fans continuent toujours de leur donner vie, de les enrichir, etc. Et en fait c'est pour ça que c'est transmédiatique, c'est que ça traverse tous les médias sous toutes leurs formes, car les fans créent du contenu sur absolument tout, que ce soit de nouvelles histoires avec des fanfictions, en créant des blogs justement, en renseignant toutes les informations. On a même des wikis qui sont des formes de Wikipédia, mais dédiées uniquement à ces œuvres-là, donc des Wiki Harry Potter, où on va retrouver les biographies de tous les personnages, de tous les lieux, des cartes. Enfin, c'est vraiment... C'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que la fantasy, en fait, c'est vraiment des mondes à proprement parler, avec leurs univers, avec leur faune, avec leur flore. Et en fait, ça se retrouve avec les fans, puisque du coup, cet univers est tout le temps, perpétuellement en expansion. Il est toujours nourri, il est toujours enrichi. Et tout est vraiment un cercle vertueux. Et du coup, la place des femmes et fans est très importante. Et les producteurs jouent beaucoup avec ça aussi, parce que justement, il me semble que c'était la 5e saison de Game of Thrones, quand, avant qu'elle sorte, ils avaient créé un site internet pour que les fans puissent créer leur propre blason avec leur insigne, leur citation, etc. Donc, même avec les producteurs, en fait, il y a vraiment un... c'est leur public, donc il faut qu'ils continuent de les intéresser et de les inclure, en fait, puisque leur place est importante.
Justement, dans cette relation entre les fans et les lieux, la question que je me pose, c'est que finalement, d'avoir choisi justement la fantasy, qui est par définition, quand on lit des livres de fantasy, qui nous fait voyager dans des décors qu'on a tout à imaginer, parce qu'ils sont pas réalistes, a priori par définition, comment ça se joue pour les fans d'aller justement dans un univers qui est presque de carton-pâte, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas une déception? Enfin, qu'est-ce qui motive, en fait, les fans? Enfin, moi, je sais pas, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, je suis totalement fascinée par l'univers. Je suis pas sûre d'avoir très, très envie d'aller voir un décor de cinéma. Du coup, j'aurais peur d'être peut-être un peu déçue par rapport à l'image que je m'en fais. Parce que dans le cinéma, on sait très bien que dans la transposition entre peut-être le texte écrit et le film, il y a de la mise en scène, donc il y a un jeu. On n'a pas les décors nus, on a de la mise en scène, des éclairages, des lumières, etc., qui vont transformer le décor pour vraiment créer visuellement un univers. Mais peut-être que je m'interroge sur le décalage quand on arrive sur les lieux et qu'on a la vérité nue. Enfin, si tu veux, quel est le sens? Ah, faut que je coupe.
Alors, il y a vraiment une importance de l'appropriation émotionnelle de l'œuvre par le fan. C'est ça, en fait, qui va créer le fan. C'est-à-dire que quand on lit une œuvre, si on l'aime, bon, on l'aime, c'est un point de vue objectif. Mais quand on devient fan, en fait, c'est là, il y a vraiment une connexion qui se crée, et c'est là où on rentre dans le subjectif. Du coup, il y a vraiment un attachement émotionnel qui se crée, et c'est ça qui va pousser les gens vraiment à vouloir se déplacer sur les lieux. Alors, bien évidemment, on peut être déçu, hein, ça arrive, mais justement, je pense que là où est la beauté et là où les personnes qui vont dans ces lieux-là s'émerveillent, c'est que, en fait, toutes ces émotions, elles deviennent tangibles. Et en fait, on rentre vraiment dans une immersion totale et on peut se mettre à la place du personnage et revivre les choses à sa place. Et je pense que c'est ça aussi qui fait partie de la magie. C'est on est conscient que ça va pas être exactement pareil parce que on n'est pas dans le film. Mais c'est quand même là où a été tourné le film. Et c'est justement là-dessus que l'Office de tourisme néo-zélandais il l'avait souligné, parce que la plupart des gens qui venaient justement en Nouvelle-Zélande, déjà parce qu'ils savaient que c'est là où avait été tourné le Hobbit, et en fait les gens venaient parce que pour voir les paysages, parce que même au-delà des scènes, c'est des paysages qui sont absolument magnifiques et qu'ils ont découvert grâce à ces films-là. Et en fait les pays justement comme la Nouvelle-Zélande maintenant aujourd'hui, toute leur com, elle existe parce que c'est le pays des anneaux et du Hobbit, et venez voir ces contrées sauvages. Et justement, c'est la beauté, c'est tu t'émerveilles devant un lieu et tu te dis waouh.
Ouais, mais pour moi, tu vois, le pays des Hobbits, c'est la terre du milieu, en fait.
La terre du milieu, c'est la Nouvelle-Zélande.
Ah ouais. Ah. Et pour aller dans ce sens, je me demande aussi si le fait de créer des lieux tangibles permet aussi aux fans de se retrouver. Et je me demande s'il n'y a pas des événements aussi créés par les fans ou les producteurs des histoires pour se retrouver autour de cette passion commune.
Oui, bien sûr. Alors, il y a plein de choses qui existent. Il y a des festivals, il y a des colloques, ouais. Il y a vraiment énormément, énormément de choses. Rien qu'à Angers, il y a l'Angers Geek Fest qui existe et qui regroupe les fans. Chaque année, ils ont une thématique. L'année dernière, on était sur la sorcellerie, donc ça a parlé d'Harry Potter, par exemple. Cette année, on est sur Utopie, Dystopie. Et donc, vraiment, c'est là où on a vraiment une communauté, en fait, qui se crée, puisque les gens viennent, ils sont déguisés, ils viennent assister à des conférences, à des colloques, ils viennent faire des activités et apprendre de nouvelles choses sur les œuvres qu'ils apprécient, et ils passent un bon moment.
Ouais, super. Merci beaucoup Clotilde, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet très riche et comme tu l'évoquais, une thèse pourrait voir le jour ces prochaines années pour explorer plus profondément cette thématique. Je rappelle aux auditeurs que donc tu as réalisé avec deux autres étudiantes un mémoire de master sur le processus qui fait qu'un livre devient un film, puis suscite un tel engouement que des lieux de tournage deviennent des sites touristiques et donc événementiels comme on l'évoquait à la fin. Je passe la parole à la musique.
I was a flower growing wild and free. All I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. The rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Radio G 101.1.5. Et ça y est, je me suis embrouillée. C'est l'émission Caméra Subjective. Et nous écoutions All I Want Is You de Barry Louis Polizard, qui est extrait de la bande originale de Juno. Bon, tout le monde rigole super dans le studio. Film, hein. Super film, absolument. Tout à l'heure, vous parlez d'un autre super film de Sam Mendes, Sandra, dans ton quiz. Et là, tu enchaînes avec le nouveau super film, peut-être? De Sam Mendes.
Vous le saurez dans un instant. Mais après, ce n'est que mon avis, vous en ferez ce que vous voulez. Effectivement, aujourd'hui, ce mercredi 1er mars, sort en salle un long métrage qui m'a beaucoup plu lors de son avant-première pendant le festival Premier Plan en janvier. Il s'agit de Empire of Light, le dernier film de Sam Mendes, à qui l'on doit les James Bond, Skyfall et Spectre, ainsi que le film de guerre en plan séquence 1917. Mais il est aussi, ne l'oublions pas, le réalisateur des Noces Rebelles qu'on citait tout à l'heure et du très joli Away We Go qui est moins connu mais magnifique. Je le mentionne car nous sommes avec Empire of Light dans cette veine un peu plus intimiste. D'ailleurs, il y a quelque chose de très personnel dans cette histoire car le réalisateur britannique y signe son scénario seul pour la première fois. Le cadre, milieu des années 80, Angleterre de Margaret Thatcher sur fond de montée du mouvement Skinhead. Bienvenue dans le cinéma hors du temps d'une petite ville balnéaire du Kent. On fait connaissance avec Hillary, la responsable du cinéma, femme blanche, la cinquantaine, fragile et éteinte. Et Steven, un nouvel employé, jeune homme noir, la vingtaine, curieux et bienveillant. On écoute la bande-annonce en VF.
Vous vous sentez comment en ce moment ?
Je me sens un peu comme anesthésié.
Vous avez des gens à qui parler? Des amis?
Non, fais pas ça, tu vas le casser!
Et si on allait boire un verre dans mon bureau?
Arrête!
Pourquoi?
Ça dérange qui? Ta femme, pour commencer.
Bonjour à tous, voici Stephen qui va remplacer Trevor.
Bonjour.
Cet endroit est fait pour ceux qui ont besoin de s'évader, pour ceux qui n'ont leur place nulle part ailleurs.
C'était magnifique autrefois.
Ça l'est toujours.
Tu viens d'où, toi?
Ça arrive souvent?
Ouais, c'est comme ça partout, non?
Personne ne va vous donner la vie que vous voulez.
Faut aller te faire soigner parce que t'as un gros problème, tu le sais.
C'est à vous d'aller la chercher.
Alors le synopsis de ce drame romantique dit « Ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d'appartenance à un groupe ». C'est un peu cela, et évidemment bien plus. Ce beau film parle en effet de reconstruction, mais aussi des décisions qu'on prend, de confiance en soi, de racisme, un peu, d'amour, beaucoup, de cinéma, de famille, biologique ou de cœur. Ce film parle tout simplement, et c'est vraiment beaucoup, des petits plaisirs. Le tout est enveloppé de l'élégance visuelle propre au cinéma de Sam Mendes et en même temps ancré dans une forme de réalisme so British. Il n'y a pas que moi qui sois séduite par l'image puisque Empire of Light est nommé pour l'Oscar 2023 de la meilleure photographie. On saura si cette cinquième collaboration avec le directeur de la photographie Roger Deakins est récompensée lors de la cérémonie qui aura lieu le 12 mars. En résumé, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que Empire of Light était un film doux amer, à la fois touchant et âpre. C'est un film sincère et délicat sur les épreuves de la vie et ce qui peut nous aider à les affronter. Le petit plus, c'est qu'autour de ces deux protagonistes, brossés avec brio, gravitent quelques personnages secondaires de ceux qui laissent une trace subtile. Je pense entre autres au projectionniste qui partage avec nous son amour de la pellicule. Comme je n'eus mieux dit, je voudrais citer une critique croisée sur le site lebleudumiroir.fr. Ouvrez les guillemets. Une nouvelle et magnifique déclaration d'amour au cinéma, l'art et le lieu, et à ses vertus cathartiques et réparatrices. Le cinéma comme refuge face aux maux de l'existence et de la société. Un faisceau de lumière qui brille dans l'obscurité, reflétant le monde et pansant les âmes tourmentées. Je ferme les guillemets et je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne projection et j'espère que ce film vous touchera autant que moi.
Merci Sandra. Bon, ben on va aller prendre notre ticket de cinéma maintenant. Eh bien, maintenant, nous allons donner la parole à Lisa qui va nous embarquer dans un monde de la danse puisque le Centre National de Danse Contemporaine à Angers débute un festival qui s'appelle Conversation et qu'il y a des rendez-vous cinéma-danse et que donc à cette occasion, Lisa va nous parler de danse et de cinéma.
Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et que malgré le froid glacial de ces derniers jours, l'envie d'aller au cinéma ne vous a pas manqué. Si c'est le cas, cette chronique a pour but d'échauffer vos corps et vos esprits pour profiter du prochain festival Conversation. Conversation, c'est un festival mis en place par le CNDC, donc le Centre National de Danse Contemporaine, qui se tient du 9 au 18 mars prochain au Quai d'Angers. Le programme est audacieux, éclectique et cinématographique. Et je voulais profiter de cette actu angevine pour vous proposer mes trois films préférés qui mettent en scène de la danse. Le premier est le film L'Art relève de Thierry Demézières et Alban Telet.
Dans la danse, c'est toutes les sensations. Sensations de l'espace, sensations de temps, sensations d'échange émotionnel avec ses partenaires. C'est comme quand on fait l'amour.
Là, je commence avec le début, il y a tout le monde, il va falloir être un peu patient, il faut que je me mette en marche.
L'Opéra de Paris, à l'arrivée de Benjamin, est un peu déboussolé par pas mal de choses.
C'est quoi l'excellence de l'opéra exactement?
Moi, je suis pas encore satisfait de la façon dont ça danse.
J'espère que les danseurs vont être réceptifs, et ceux qui seront réceptifs sont ceux avec lesquels je vais travailler.
Ouais, voilà. I'm twisting.
Le truc, c'est que le palais, il va être compliqué. Je vais finir, mais à la dernière minute, ça, c'est sûr.
Parce que si Benjamin nous choisit, c'est pour qu'on se révèle, quoi, pour qu'on donne de nous.
Il faut que j'arrive à faire une minute par jour. Une minute par jour.
chaque moment compte, parce que ces moments-là, c'est pour vous, pour prendre du plaisir. Il n'y a pas un danseur qui bouge comme l'autre dans le ballet. Ils ont tous des spécificités, tous.
Au premier abord, c'est un film documentaire assez classique sur la création d'un nouveau ballet à l'Opéra de Paris. Sauf que ce nouveau ballet, il est mis en scène par le directeur de l'opéra, qui n'est autre que Benjamin Millepied à l'époque. Si vous ne connaissez pas, Benjamin Millepied, c'est déjà un monsieur qui porte extrêmement bien son nom, accessoirement le mari de Nathalie Portman, le chorégraphe du film Black Swan, et surtout un des danseurs chorégraphes les plus connus au monde. Et bien que le film s'intéresse à la création du ballet et à la complexité des chorégraphies, c'est surtout un film qui nous montre la difficulté de gérer l'énorme machine qu'est l'Opéra Garnier. C'est une vieille institution que Benjamin Millepied a bien du mal à dérider, et d'ailleurs il donnera sa démission quelques temps plus tard. Mais Benjamin Millepied révolutionne les codes du ballet classique et c'est assez magique de le voir à l'œuvre. Pour sortir des films documentaires sur les opéras, je vous propose le film tout récent de Cédric Clapiche, Encore. Malgré un très mauvais jeu de mots, c'est un film qui sait absolument bien mettre en valeur les corps des danseurs. Les plans sont magnifiques, les danses sont hyper puissantes et l'énergie hyper positive. Malgré une histoire d'amour très peu utile, c'est un film drôle et esthétiquement super travaillé qui fait du bien aux yeux. Et enfin, mon petit chouchou des films de danse, sorti à peu près au même moment que Encore. Il s'agit du film Allons enfants, toujours de Thierry Demézières et de Alban Telet.
Danser pour danser, ça nous intéresse pas. Réfléchir pour mieux danser, là ça nous intéresse.
D'apprendre ce qui s'est passé avant Jésus-Christ, je sais pas, moi j'étais pas là quoi.
La danse c'est de la déter, on l'a oui ou non, il faut la voir. Si t'as pas la déter, si tu veux pas tout péter, comment tu vas avancer?
Un maximum de bordel pour le lycée Turgot!
C'est votre dernier championnat, vous êtes tous en terminale. Il faut que vous respiriez la danse. Là, c'est des lions en cage qu'on veut voir.
Du bruit. Le monde du hip-hop, déjà, faut savoir, c'est un putain de monde avec que des hommes en vrai. Faut s'affirmer. Je pense vraiment qu'on est une génération qui va faire taire les mecs tout simplement.
T'as fait une année scolaire naze.
Il faut qu'on arrive à sentir qu'on a un point d'appui avec toi. Là, on glisse, là. On est inquiet, forcément, et c'est notre rôle.
C'est vous-même qui devez vous valider. Et des talents, vous en avez plein.
On y suit le parcours de jeunes lycéens qui vont participer au championnat national de danse hip-hop. Véronique, ici présente, est témoin. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est beau à tous les niveaux. Les danses sont toutes d'une puissance absolue, l'histoire est super touchante, mais surtout c'est la résilience de tous ces jeunes qui est incroyable. Ils passent tous devant la caméra pour raconter leur parcours de vie super dur et ce que la danse leur apporte, mais c'est pas tant dans leurs paroles qu'on comprend leur vie, mais plutôt dans leur façon de danser. On y voit tout, leur fragilité, leur force, on comprend tout ce qu'ils ont vécu et à quel point c'est ancré en eux car ils vivent intensément tous leurs mouvements. La magie de la danse et les talents des réalisateurs pour nous la filmer donnent un film beau et intense en émotion. Bon, alors bien évidemment, aucun de ces films ne passe lors du festival Conversation, mais je vous conseille le super film Les Indes Galantes de Philippe Bézia, qui passe dans le cadre du festival le 7 mars au 400 coups et qui filme la création du premier ballet hip-hop monté à l'Opéra Garnier par le chorégraphe Clément Cogitor. Et pour vous donner envie, je vous conseille le court-métrage qui a inspiré la création de ce ballet et qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Opéra Garnier.
Lisa, Clément Cogitor qui est également cinéaste et qui sort cette semaine un long-métrage, je dois dire. Et il nous reste encore quelques minutes pour de nouvelles questions du quiz spécial divorce.
Si vous avez bien préparé cette question.
À toi Sandra.
Allez, la suite des films de rupture. Non mais j'ai pas fait que du glauque, hein, vous inquiétez pas. Alors je vous invite à une petite question sonore, hein, trouver de quel film il s'agit grâce à cet extrait de la bande-annonce.
Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer...
On divorce.
Pardon ?
On divorce, mais qui ça on ? On, bah lui, enfin moi, elle, moi, nous, ton père, ta mère.
C'est une blague.
Réussi.
Je comprends pas. Qui part alors ?
Moi.
Et... qui veut la garde des enfants ?
Lui.
Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider.
Quoi ? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa.
T'as dit ça ?
papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider.
T'as dit ça?
Bah non, pas du ça.
C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre?
Non, apparemment, c'est toi qui veux la guerre.
Ah, moi, je veux la guerre.
Ah, tu veux la guerre?
Ah, ouais, je veux la guerre.
Donc, tu veux la guerre.
Absolument.
Tu fais gaffe, hein.
Oh, chouchotte. On a des cours, hein.
Attends, mais qu'est-ce que t'as fait?
Non, c'est bien, c'est...
C'est trop court. Non,
mais ça... Oui, mais ça allège.
À moins de 2 mètres, ça fait mal.
Mais papa!
À moins d'un mètre,
oui,
ça fait très mal.
Qu'est-ce qu'il y a, ma puce?
Alors, je suis sûre que c'est une comédie avec Laurent Lafitte et Marina Foïs.
Ah, vous est-ce avez que c'est, les
il y a au moins deux ou trois, il y a au moins deux, il y en a au moins deux numéros. Est-ce que c'est Papa et Maman ou est-ce qu'il y a un truc comme ça?
Dans c'est le... ça, c'est Papa ou Maman, film ouais, français ça. De Martin Bourboulon, réalisé en 2015.
Chapeau bas. Qui donne envie de planter ses enfants, c'est pas mal.
C'est ça, en fait, les parents se battent pour ne pas avoir la garde de leurs trois enfants, chacun ayant une opportunité professionnelle à l'étranger. Et je dois dire que pour apprécier cette comédie, il faut aimer l'humour méchant, car ils vont très loin pour se débarrasser des gosses.
Oh là.
Enfin, moi, ça m'a fait un peu penser dans la catégorie divorce qui se passe pas très bien, le côté un peu barge et gentiment trash, au film La Guerre des Roses de Danny DeVito.
Ah oui, vous avez c'est vrai.
Long métrage américain de 89. Alors, avec un scénario à l'exact inverse de Papa ou Maman, dans quel film Ted et Johanna cherchent chacun à récupérer la garde de leur fils de 7 ans après que la mère est partie pendant un an et demi en laissant le père s'occuper seul de l'enfant?
J'ai un nom qui vient en tête, je sais pas si c'est ça, c'est Kramer contre Kramer.
Wow, bien joué, et Margot est en pleine forme. Film de Robert Benton de 79.
Avec Rosanna Arquette.
Non, c'est avec Meryl Streep qui avait eu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second
c'est
rôle.
Dustin Hoffman, non?
Et pour le même film, Dustin Hoffman a eu l'Oscar du meilleur acteur. Et c'est inspiré par le livre Le droit du père d'Avray Corman, avec des thèmes assez sociaux et notamment l'expérience monoparentale ou encore le droit des pères. Donc un film, moi que j'ai découvert en préparant cette chronique. Prochaine question, est-ce que tout le monde est prêt?
Allons-y.
Alors, on va avoir un petit extrait sonore. Je vous invite à trouver de quel film il s'agit grâce à cet extrait de la bande originale. But if you don't try, the light won't hit your Alors, est-ce que vous avez reconnu la voix de cette chanteuse qui, dans ce film, joue la comédie pour la première fois? L'interprète de la chanson du générique incarne la protagoniste du film, Elisabeth.
Non.
Bon, ça vous dit rien?
Ce ne sont pas des indices qui peuvent m'aider.
Alors, deuxième indice. On doit ce titre à une tarte aux myrtilles qui joue un rôle dans l'intrigue.
Wow. American Pie.
Si vous parlez un petit peu anglais... Ça peut vous aider.
C'est
non,
pas
toujours
ça
pas.
C'est pas ce qu'elle dit.
Non, c'est pas American Pie.
Moi, je sais plus comment on dit myrtille en anglais.
Blueberry. Ah, alors, Blueberry Nights. My Blueberry Nights.
Bien joué, non, là, c'est ça. J'allais vous donner un prochain.
Il y avait la
My
traduction.
Blueberry Nights de Wong Kar-wai. Film de 2007.
Et la musique, c'est qui alors?
Pardon.
Non, vas-y, je vois qui c'est, mais je...
La délicieuse Norah Jones, qui avait fait une entrée fracassante dans la chanson avec l'album Jazzy, Come Away With Me.
Qui était tu peux sortie. Nous interpréter quelques mesures?
Come Away With Me in the Night. Non, pas du tout. Excusez-moi. Pardon pour vos oreilles. ce film, en fait, je trouve, en tout cas, qu'il est plus marquant pour le côté visuel que pour son intrigue, en fait. Parce qu'il y a vraiment des effets de ralenti saccadés, des images hyper esthétiques, des cadres à travers les vitrines qui sont éclairés au néon, hyper colorés, avec des premiers plans très flous pour faire le focus sur les visages. On a vraiment une nouvelle grammaire de l'image dans ce film de Wong Kar-wai, qu'on avait déjà croisé d'ailleurs en 2000 dans son film In the Mood for Love, que certains considèrent comme un film d'amour. Pour moi, c'est plutôt un film sur la solitude, si je peux me permettre. Mais en tout cas, ouais, My Blueberry Nights, c'est une pure merveille, filmé d'une manière tellement différente de tout ce que vous avez vu avant, que l'ambiance visuelle marque vraiment la rétine bien plus que l'intrigue. J'aime beaucoup ce film. Et ainsi s'achève mon quiz. Wow.
Merci
pour votre participation.
Sandra.
Right on time. Merci beaucoup d'avoir fabriqué cette émission, de l'avoir écoutée. Elle sera en ligne sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Le podcast pour la réécouter dans son intégralité et bien sûr les infos, des liens pour retrouver des détails sur tout ce dont on a parlé ce soir. Les podcasts sont en cours de mise à jour. Voilà, merci pour votre indulgence. À dans 2 semaines.
Bonne soirée.
Radio G 101.5 FM.